France Inter. France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Au téléphone sonne ce soir, le permis de conduire. Faut-il passer une visite médicale pour garder le précieux sésame? Et d'ailleurs, à partir de quel âge? On pense d'abord aux conducteurs de plus de 70 ans, mais après tout, est-ce que chacun, tout au long de sa vie au volant, ne devrait pas être soumis régulièrement à des tests de vue, de réflexes et autres aptitudes à la conduite? Plusieurs récents accidents de la route nous ont douloureusement montré que de vieux, très vieux conducteurs n'étaient plus aptes à conduire. Or, au-delà de l'émotion de ces drames, eh bien nous verrons ce soir que la visite médicale n'est pas forcément la solution que certains espèrent. Chez nos voisins européens, ceux qui ont mis en place cette visite médicale n'ont pas toujours connu de baisse significative du nombre de morts sur les routes. Et si la solution était ailleurs? Eh bien, c'est ce que nous allons explorer ce soir. Rappelez-nous, faites-nous part de vos témoignages. Le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Avec un premier auditeur qui nous appelle du département de l'Isère. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Quelle est votre question ou votre témoignage?
Alors c'est plutôt un témoignage. Moi j'ai une mère qui a 94 ans, qui vit seule, qui est en santé, qui est dans une à peu près bonne santé et qui conduit toujours au grand dam de ses enfants, en tout cas d'une partie de ses enfants. Donc on a essayé plusieurs stratégies médicales pour qu'on lui conseille de ne pas conduire, mais ni un ophtalmo, ni un médecin généraliste ne lui ont fait de remarques et lui ont dit « Écoutez madame, à votre âge, vous devriez arrêter, etc. » Donc elle conduit toujours, localement, elle fait des petits trajets, elle va chez ses copines, et le problème c'est qu'elle arrête de conduire, elle perd toute sa liberté et on n'a pas forcément la volonté de l'obliger à ne plus conduire et de lui priver de sa dernière liberté qui lui reste, quoi.
Eh bien,
donc c'est un problème insoluble en fait.
Merci beaucoup Philippe de ce témoignage. Vous avez assez bien résumé effectivement la situation et ce soir pour vous répondre, deux invités. Sophie Saintin, vous êtes déléguée générale de l'association Prévention Routière.
Bonsoir.
Bonsoir. Et Patrick Mirouz, président des auto-écoles ECF, c'est je crois le réseau d'écoles de conduite le plus important de France, vous me le confirmez? L'un des plus importants ou
oui,
le plus important, oui.
D'Europe. Je vous le confirme et je vous dis bonsoir.
Bonsoir. Philippe a bien résumé le débat. Sophie Saintin, est-ce une bonne idée de faire passer une visite médicale obligatoire au-delà d'un certain âge?
Alors notre auditeur a surtout bien résumé la problématique qu'il appelle lui, enfin par rapport à l'âge, mais la question de l'aptitude à la conduite, et en tout cas ce sera sûrement le débat de ce soir, ne doit pas être regardée qu'à l'aune de la question de l'âge, en fait. Donc la question du contrôle médical, vous me posez la question du contrôle médical à partir d'un certain âge. Ce que je vais vous dire, c'est que en fait, les pays qui l'ont mis en place, les études montrent qu'elle n'a pas fait preuve d'efficacité, cette mesure de contrôle médical en fonction de l'âge.
Et puis je précise que dans quelques minutes on passera un coup de fil à Florène Julien qui est la cofondatrice du collectif Sauver des vies, c'est permis. Patrick Mirouz, président des auto-écoles ECF, je vous pose la même question. Faut-il imposer une limite de validité au permis de conduire des seniors?
Alors, on va de suite sur les seniors parce que la question de votre auditeur est c'est un vrai sujet et il l'a dit, on est sur le dernier rempart de liberté, c'est peu une mort sociale quand on ne peut plus se déplacer. Pour autant, il ne faut pas mettre de côté les incompatibilités à la conduite. C'est pas une visite médicale qui va faire ça. Je crois qu'il y a un accompagnement qui doit être plus spécifique vers les seniors. Alors, votre auditeur le disait, il y a le médecin généraliste. Nous croyons beaucoup à l'ECF, au réseau des médecins généralistes, qui doit être formé. Je veux dire, c'est le médecin traitant, puisque les seniors prennent des médicaments. C'est vrai qu'avec l'âge, on a tendance à prendre plus de médicaments. Et donc, qui doit avoir un champ pour pouvoir alerter sur ce dispositif-là. Ils doivent être formés. Je crois que c'est un peu la position de l'État français. Mais je dirais que le plus important pour les seniors, c'est de les accompagner vers une autre mobilité. Quoi. C'est ça. Peut-être on y reviendra tout à l'heure en fonction des questions de vos auditeurs.
Sophie Saintin, quel médecin, quel organisme devrait valider ou invalider le permis de conduire des seniors? Le médecin traitant, pourquoi pas, disait Patrick Mirouz.
Il y a un point important concernant les médecins traitants, c'est qu'en effet, ils doivent informer leurs patients d'une incompatibilité, symptômes, traitements, pathologies avec la conduite. En revanche, ce qui est essentiel quand même dans la relation patient-médecin, c'est le secret médical. Et ça, il faut le conserver, parce que si vous mettez à mal ce point-là, les gens n'iront plus, enfin, la confiance risque d'être rompue. Donc ça, c'est essentiel. Et donc nous, on prône plutôt le dispositif français aujourd'hui, qui est un dispositif cas par cas avec les médecins agréés de la préfecture. Et ça, c'est le dispositif qu'il faut mettre en avant beaucoup plus et faire connaître du grand public.
Vous parlez du secret médical. Vous redoutez également, si c'est un médecin de famille, un médecin traitant qui valide ou invalide le permis, vous redoutez des complaisances possibles avec le conducteur ? Avec non, le conducteur patient ?
Non, c'est pas le sujet. C'est vraiment la question du secret médical et le fait qu'il soit que le patient ait confiance et que la relation de confiance perdure. Après, la question du contrôle médical, c'est un instant T sur un moment essentiel en fait, mais qu'est-ce qui se passe quand on a un contrôle médical et qu'on a une aptitude pour plusieurs années, comme le prévoit la proposition de loi, au lendemain, quelques semaines après ou quelques mois après, quand la pathologie se déclare ?
Vous souhaitiez apporter un commentaire, oui. Effectivement ?
Oui, on n'est pas tout à fait... On est aligné sur la partie des incompatibilités, pas la façon dont on les contrôle. Parce qu'il existe déjà ce groupe de médecins agréés par les préfectures, qui sont des experts, finalement. Mais le tuyau n'est pas assez gros. C'est une vraie fausse bonne idée. On va bloquer. Vous regardez, c'est les conducteurs professionnels, aujourd'hui, qui passent devant ces médecins. C'est les conducteurs poids lourds, d'autocars, les taxis et même les formateurs, les enseignants de la conduite et de la sécurité routière. Mais il n'y en a pas assez.
Il n'y a pas assez de médecins ?
Mais oui, les délais sont trop longs. Et puis vous passez devant quelqu'un qui ne connaît pas le patient. C'est encore notre... Il faut savoir le système.
Mais c'est peut-être une bonne chose qu'ils ne connaissent pas trop le patient, en disant, voilà, vous voyez bien, vous avez des réflexes, vous n'en avez pas, qu'on connaisse le patient ou pas, c'est pas...
Et puis, ils sont formés à ça. C'est-à-dire que les médecins agréés, ils sont formés, ils ont une formation complémentaire sur la question du permis de conduire et l'aptitude au permis de conduire.
Sur cette partie-là, juste pour terminer un mot, je suis d'accord avec Sophie Saint-Ain sur la partie, on ne peut pas faire un couperet comme ça de suite. S'il y a une évaluation, elle doit être périodique, quoi. Et c'est là que la visite médicale chez les médecins agréés devient compliquée, parce que si elle est périodique, je ne parle pas que des seniors. Mais on a quand même 45 millions de conducteurs en France. Imaginez le nombre de médecins qu'il faudrait pour faire ce dispositif. On rajoute une norme dans un pays qui est déjà normé.
Et c'est pour ça que du coup, on en revient au dispositif français. Le choix qu'a fait la France, finalement, c'est un contrôle médical au cas par cas, en fonction de la pathologie, des symptômes ou de la question de la capacité à conduire.
Et on va y revenir. Nous sommes en ligne à présent avec la cofondatrice du collectif Sauver des vies, c'est permis. Bonsoir Florène Julien.
Bonsoir.
Vous êtes pour une visite médicale tous les 15 ans, pour tous les conducteurs, vous estimez que l'inaptitude peut intervenir à tout âge ?
Absolument, absolument. Je pense que c'est un faux débat de cibler uniquement les seniors. Le sujet, c'est bien l'aptitude à la conduite à tout âge. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est complètement hors radar. Les invités qui sont présents l'ont dit, il y a des dispositifs qui existent. Malheureusement, ils ne sont pas fonctionnels. Et il y a toutes les semaines des accidents qui pourraient être évités, qui sont des drames à la fois pour les personnes qui les commettent, mais aussi pour les personnes qui en sont victimes. Moi, malheureusement, ma maman est décédée il y a 2 ans à cause d'un conducteur inapte. Et je pense que c'est un réel sujet de société pour lequel il n'y a pas de règle du jeu qui permet de protéger les conducteurs et les personnes qui croisent la route de conducteurs inaptes.
Mais si, comme vous le souhaitez, effectivement, chacun peut devenir subitement inapte à la conduite du jour au lendemain, est-ce que ce délai de 15 ans que vous souhaitez, 15 ans entre deux visites médicales, est-ce que ce n'est pas trop long? Car en 15 ans, il peut s'en passer des choses concernant nos capacités physiques.
Absolument, mais je pense que c'est une première porte d'entrée essentielle. Aujourd'hui, le sujet, il n'est pas reconnu. Donc nous, on reçoit tous les jours des témoignages de personnes qui nous disent « Je ne sais pas comment accompagner mon proche qui n'est plus en capacité de conduire, parce que quand je lui dis qu'il faut qu'il arrête, il me dit que finalement, il n'y a pas de loi qui lui interdit de conduire. » Donc, ils font des signalements auprès du préfet pour qu'il y ait des visites médicales, sauf que les préfets ne se saisissent pas de ces signalements, donc il y a un vide total. Donc, commencer par une visite médicale tous les 15 ans, c'est déjà faire reconnaître le sujet et la nécessité de le prendre en charge.
Cette visite médicale, vous la comparez à une ceinture de sécurité. Mais qui doit faire passer cette visite médicale ? Le médecin traitant, on posait la question ou bien le médecin agréé par la préfecture ?
Alors la proposition qui est faite aujourd'hui, mais je le rappelle, l'important c'est qu'il y ait un débat parlementaire et qu'il puisse donc y avoir tout un tas d'idées mises sur la table, ce serait que les médecins de famille puissent faire un premier filtre. Donc puissent d'abord regarder si au vu du dossier médical du patient, le patient va bien ou s'il y a potentiellement des risques au regard de son aptitude à la conduite. S'il y a des risques, à ce moment-là, il faut orienter le patient vers un médecin agréé qui est en capacité de faire une visite beaucoup plus complète. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de médecins agréés. Donc, en parallèle de cette proposition de loi, il faut élargir le nombre de médecins agréés. N'importe quel médecin peut prétendre à cet agrément et aujourd'hui, il en manque cruellement aussi parce que le système est très très peu connu. Ce qu'on a pensé aussi, c'est une mise en place graduelle pour ne pas surcharger le système de santé, mais tout ça nécessite un débat. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une absence totale de règles du jeu et qu'il y a la possibilité d'avoir un débat parlementaire grâce à une proposition de loi qui est co-signée par plus de 100 députés de 9 groupes politiques différents.
Mais donc est-ce que cette proposition est passée en commission déjà? Je crois pas, hein, ça n'avance pas beaucoup, pas assez vite à votre goût en tout cas.
Alors, cette proposition, elle a été déposée en mars dernier et depuis mars, on attend qu'elle soit mise à l'ordre du jour. Donc évidemment, pour nous qui recevons des témoignages toutes les semaines et qui voyons plus d'un accident par semaine, ça n'avance pas beaucoup. Mais on sait aussi que les délais à l'Assemblée nationale sont très très longs et que là, une proposition de loi sur la sécurité routière a été adoptée il y a un peu moins d'une semaine. Elle était en travail depuis plus d'un an et demi. Donc nous, évidemment, ce qu'on veut, c'est que ça aille le plus vite possible. Mais déjà, le fait qu'en mars, elle a été déposée et qu'il y a plus de 100 députés de 9 groupes politiques différents qui l'aient co-signée, c'est quand même le signe que c'est le moment de passer à l'action.
Merci beaucoup de ce témoignage, Florène Julien. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice du collectif Sauver des vies, c'est permis. Le téléphone sonne jusqu'à 20h. Question ce soir, quelle validité au permis de conduire? On en parle jusqu'à 20h avec nos invités et nos auditeurs. Claude est en ligne. Bonsoir Claude.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Strasbourg et je crois savoir que vous avez 87 ans.
Voilà. Alors écoutez, j'ai 87 ans, je conduis normalement. Mais je suis tout à fait d'accord pour me soumettre, si vous voulez, à une visite médicale. Mais je sors d'une visite médicale récente et apparemment, je n'ai aucune contre-indication. Alors, je pense que c'est le médecin traitant qui connaît bien le malade. Moi, je vois le médecin traitant plusieurs fois par an pour suivre un régime contre l'hypertension. Et j'ai un dernier examen qui est excellent. Donc, c'est le médecin traitant, à mon avis, qui devrait être la caution, évidemment, de la bonne conduite. Et j'ai l'exemple de ma mère qui avait plus de 70 ans, 75 ans, et qui conduisait en étant vraiment très, très presque handicapée, et on avait toujours la peur, lorsqu'elle prenait la route, et en particulier l'autoroute, d'un accident qui aurait pu être très grave. Voilà, j'ai eu cet exemple sous les yeux. Et je ne voudrais pas qu'il se répète, voilà.
Merci beaucoup de ce témoignage, Claude. 87 ans à Strasbourg, Sophie Saintin, déléguée générale de l'association Prévention Routière concernant l'aptitude au permis de conduire. Vous disiez tout à l'heure être favorable au cas par cas, c'est-à-dire ?
Mais c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a entendu tout à l'heure, le fait de mettre le sujet sur la table et d'en faire un sujet de société, pour nous, tous les sujets, enfin, qu'on parle de sécurité routière tout le temps, c'est vraiment essentiel. Il n'y a pas de souci là-dessus ou de sujet là-dessus. En revanche, mettre un contrôle médical tous les 15 ans en se disant au moins ça ouvre le débat et ça lance le sujet, un peu comme ce qu'on vient d'entendre, et au moins. En fait, c'est un puissant anesthésiant. C'est un puissant anesthésiant parce que quand vous allez avoir votre papier, vous allez sortir de chez le médecin. Au-delà du fait qu'il y ait beaucoup de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Hein.
En plus.
Vous allez sortir de chez le médecin. Vous aurez votre papier avec une validité pour 15 ans. À quel moment vous allez vous reposer la question en responsabilité, comme vous devez le faire quand vous prenez votre voiture, de vous dire est-ce que je suis apte ou pas à conduire ?
Patrick Mirouz, tous les 15 ans, ça n'a pas de sens.
Non, c'est trop. C'est à la fois trop long. Et à la fois, comme je l'ai dit, impossible pour passer tous les conducteurs. Vous avez raison. Mais je crois qu'il faut revenir sur... parce qu'on dérive de suite sur les seniors. Je ne sais pas à quel âge on est senior, quoi, en fait. Donc, en plus.
On a mis un marqueur à 70 ans.
Bon, très bien, très bien. Mais le vrai sujet, c'est les incompatibilités à la conduite. Et ça, il faut reprendre au début. Je rappelle qu'il y a une nouvelle directive européenne qui est en train, qui va être votée d'ici la fin de l'année, que ça sera totalement transposé en France dans les deux ans qui arrivent. Je pense que l'État français a...
Avant de parler des restrictions, pour les auditeurs, dites-nous d'abord précisément ce que dit la directive européenne qui est en train d'être votée sur le permis de conduire.
Elle dit deux choses. Elle dit soit sur cette partie-là des incompatibilités de la conduite. Avant d'entrer en formation, en inscription au permis de conduire, on doit s'inscrire, on doit déclarer s'il y a une liste d'incompatibilités qui sont avec la conduite, on doit déclarer si on les a ou pas.
Donnez quelques exemples d'incompatibilités qui existent déjà pour le permis de conduire.
Je peux vous le dire restrictions. Très rapidement, elles sont au nombre de 6 ou 7. Quoi, en fait, vous avez la somnolence excessive non traitée, l'épilepsie déclarée, Alzheimer dès le début du stade 3, les psychoses aiguës et chroniques, des handicaps visuels, si effectivement l'acuité visuelle des deux yeux est inférieure à 5 dixièmes.
Lorsqu'on souffre de ces pathologies, donc on ne peut même pas prétendre au permis de conduire.
Et c'est fait partie des listes d'incompatibilités à la conduite. Exactement. Quoi,
existante.
Fait. Existante, quoi, en fait. Et donc ça fait partie, la directive européenne propose, puisqu'elle n'est pas votée encore, un autodiagnostic ou une attestation d'un médecin traitant qui, vis-à-vis de ce qui revient au débat de tout à l'heure.
Eh bien, faites-nous part de votre commentaire, vos questions autour du permis de conduire. On en parle jusqu'à 20h.
France Inter. Le téléphone sonne.
Un témoignage, celui de Valérie qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Valérie.
Oui, bonsoir. Alors d'abord, merci beaucoup pour la qualité de vos émissions.
C'est très gentil.
C'est vrai. Ensuite, voilà, je suis un peu émue. Voilà.
Vous êtes émue, lundi, dites-nous pourquoi.
Eh oui, parce que lundi, mon fils de 12 ans monte dans la voiture de ses grands-parents, qui sont âgés respectivement de 82 et 83 ans. Lui vient d'être opéré du côlon gravement il y a 2 mois et ne prendra pas le volant. Quant à elle, elle est en surcharge pondérale, est équipée d'un pacemaker et s'essouffle au premier étage. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un cliché, c'est vrai. Et que faut-il attendre? Que mon fils ait un accident avec ces gens-là? Voilà, j'en suis à me dire pourquoi on laisse des gens comme ça sur la route. J'imagine que leur médecin ne sait pas qu'ils vont faire 4 heures de route avec un garçon de 12 ans. Voilà, je suis complètement angoissée à l'idée de cette journée. Et voilà.
Si je peux me permettre, je vous entends.
Pardon.
Je vous en prie, terminez votre témoignage.
J'ai proposé, moi, de payer le train. J'ai essayé de trouver des solutions.
Mais c'est ce que j'allais vous dire. Pourquoi autorisez-vous votre fils à partir dans ces conditions?
C'est un petit peu plus. Alors, c'est un autre sujet. Nous sommes séparés. Son père est aveuglé par le manque de courage et de dire à ses parents que c'est peut-être pas raisonnable. Et il m'a dit non. Donc, moi, j'ai proposé le train. J'ai appelé aujourd'hui une association de sécurité routière de Toulouse. Et le monsieur m'a dit, madame, tant qu'il n'y a rien, aucune interdiction officielle, on ne peut rien faire. Donc, voilà où j'en suis.
Eh bien, merci de ce témoignage. Je suis pas sûr que nos auditeurs vont pouvoir répondre quelque chose. Nos auditeurs, nos invités vont pouvoir répondre quelque chose de très précis. Mais en revanche, ce que vous nous dites là, Valérie, illustre très bien la complexité du dossier. Je me retourne vers vous, Patrick Mérouz, à propos des accidents. Les conducteurs de 75 ans et plus ne causent que 9% des accidents mortels contre 80% d'accidents mortels pour les 18-24 ans. Y a-t-il à vos yeux une stigmatisation donc qui serait disproportionnée des seniors?
C'est le sujet, on l'a dit. Il y a une stigmatisation des seniors, c'est vrai. C'est un drame, tout accident mortel, par qu'il soit engendré, est vraiment un drame pour les familles, quoi, en fait. Mais je trouve à cet égard que les seniors sont stigmatisés. Ce qui est important de comprendre, c'est que oui, c'est vrai, qu'avec le vieillissement, il y a certaines acuités qui peuvent diminuer, et c'est pas un sujet.
Et je crois que vous les accompagnez, ces personnes qui ont des chez OCF.
C'est ça. On travaille d'ailleurs avec un assureur qui met en place pour ces assurés des formations. Ben, tout simplement, il y a plusieurs types. Vous avez la dame, monsieur est décédé, ça s'appelle reprise de volant suite à veuvage. C'est aussi de l'autodiagnostic pour effectivement être capable de voir sur des simulateurs. Parce que vous savez, si vous faites conduire quelqu'un, Même si je vous fais conduire, on va se sentir examiné, on revint les stigmates de l'examen du permis de conduire et c'est pas facile. Donc on les met sur des simulateurs, on les met pas sur des phases pratiques.
C'est moins stressant pour eux.
C'est moins stressant pour eux et il est même arrivé sur certains seniors de les accompagner sur des trajets types parce que les seniors, vous savez, finalement, ils font tout le temps le même trajet. Le samedi matin, ils vont aux courses à 11h pour amener des gens, pour voir du monde, parce que c'est, socialement, c'est important, quoi. Donc, nous, on est plus, y compris sur un accompagnement d'autres mobilités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aussi, il y a des seniors qui ne peuvent plus conduire la voiture. Et il faut les apprendre à prendre des transports collectifs, des transports à la demande, tout un tas de choses qu'ils n'avaient pas idée.
Et ça faciliterait l'auto-médication, j'allais dire, pour le volant, dire j'arrête puisque je suis accompagné, je peux faire autrement.
Oui, tout à fait. Notre association, pareil, accompagne les seniors depuis très longtemps maintenant avec de la sensibilisation, on fait du rafraîchissement de code de la route, mais pas que. On a aussi travaillé avec des auto-écoles pour pouvoir faire des prises en main des diagnostics sur la conduite et les accompagner vraiment dans cette démarche-là. Mais réellement, dans notre environnement, il y a la question de la prévention et la prévention de la mobilité. C'est aussi être ouvert sur une multimodalité. À un moment charnière, notamment le moment où on prépare sa retraite, il faut aussi se poser la question de où est-ce qu'on va vivre, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui est à proximité et qu'est-ce qui est à notre disposition comme moyen de transport. Et notamment, il y a de plus en plus d'endroits en France où il y a du transport à la demande, on ne le sait pas forcément. Et il faut anticiper cette période-là et commencer le plus tôt possible à être finalement dans la multimodalité.
Patrick Mirouz, le permis de conduire s'obtient de plus en plus tôt, dès 17 ans depuis le 1er janvier dernier, ou non, l'an dernier, en 2024.
Oui, c'était 2024.
Il y a aussi les 16 ans en conduite accompagnée. 6 mois après, quel bilan faites-vous de cet abaissement de l'âge?
Alors, les conduites accompagnées, c'est 15 ans. En fait, vous avez dit 16 ans, Eric, mais c'est, dans l'inconscient, on pense que c'est 16 ans. Mais en réalité, c'est 15 ans et depuis 11 ans, en fait. Il y a une loi d'il y a 11 ans qui a abaissé la conduite accompagnée à 15 ans. Alors, juste un mot pour la mesure Nous, on est favorable à l'ECF, cette mesure, parce qu'à la base, c'est une mesure qui permet de développer la mobilité chez les jeunes. Alors, on pensait que ça allait concerner une mobilité dans les zones rurales pour aller travailler. Finalement, ça a concerné 300 000 jeunes, que ce soit à Paris, dans la ruralité, en Corse ou même dans les Outre-mer. Donc, le bilan, il est très simple, c'est que ces personnes-là ont réussi le permis à plus de 75%. C'est plus de 20% que leurs aînés, c'est-à-dire que les jeunes de 18 ans réussissent à... Et puis effectivement, aujourd'hui, c'est beaucoup de jeunes qui ont cessé le procédé de la conduite accompagnée. Mais je voulais dire qu'au-delà de l'âge, est-ce que vous savez quel est l'âge moyen du passage du permis en France? Alors, c'est moi qui vous pose une question, peut-être on inverse l'émission, excusez-moi, Eric.
Moi, je l'ai posé à 16 ans pour avoir la moto, donc c'était mon premier dans les années 80.
C'était dans les années 80. Aujourd'hui, alors données corrigées du 17 ans que je n'ai pas encore, mais quand l'âge légal était à 18 ans, on est entre 23 et 24 ans. Ce qui veut dire qu'on a un jeune qui passe le permis, une fois qu'il a fini ses études, il se retrouve devant un employeur, et quand on parle du permis, il lui dit ben, « je ne l'ai pas ». Un emploi sur deux chez les jeunes est refusé parce qu'ils n'ont pas de permis. On est donc, il va voir son auto-école, il dit « je veux passer le permis en 2 mois » et ce n'est pas possible. On est sur une mobilité subie. Je termine, et j'en ai pour une minute. Nous, ce qu'on pense qu'il faut développer, il faut le développer le plus jeune âge. C'est 15 ans et c'est même 14 ans qui devient le carrefour de toutes les mobilités.
14 ans en conduite accompagnée.
En droit d'apprendre à conduire. Vous savez, il y a des mobilités, vous avez les quadricycles à moteur, les petites voitures dont deux constructeurs français, je ne vais pas les citer ici, fabriquent de beaux produits sur le sujet. On va sur la route avec des quadricycles à moteur. C'est des voitures qui roulent à 45 km/h, mais qui sont de vraies petites voitures. Citroën en fabrique et Renault en fabrique aussi. Nous on pense que dès 14 ans il faut rentrer dans un dispositif d'apprentissage. Je vais vous dire, à 14 ans on a quoi? On a envie, on est sur une mobilité choisie, quoi. On a envie d'apprendre à conduire, et puis je vais vous dire, c'est plus facile d'apprendre à conduire à 14 qu'à 24, c'est comme pour la natation.
Sophie Saintin, le permis de conduire dès 17 ans, une conduite accompagnée peut-être dès 14 ans, vous regardez ça comment dans votre association Prévention Routière?
Alors là, on n'est plus d'accord avec Patrick.
Mais dites-nous pourquoi.
Alors, je vais vous dire pourquoi. On n'était pas favorable au permis à 17 ans parce que du coup, on remonte l'âge. Alors là, on a les informations. Patrick nous a donné les informations sur les chiffres du passage et de la réussite du passage permis de conduire. Il y a eu un effet d'aubaine cette année. Nous, on attend vraiment la consolidation des chiffres. Il faut savoir que la tranche d'âge la plus à risque sur la route, c'est 18-24. Pour nous, on remonte d'un an et on englobe encore plus finalement ce risque-là. Donc ça, c'est un des points essentiels pour nous. Et donc, de fait, remonter également la conduite accompagnée à 14 ans, Non. La conduite
c'est un manque de maturité.
Oui, il y a un manque de maturité. La conduite accompagnée, c'est un dispositif sûr. C'est vrai que les jeunes qui vont sur la route ensuite sont... présente moins de risques, c'est vrai, que le reste de tranche d'âge, mais
redites
14
ça,
ans...
Plus on commence tôt à apprendre à conduire, moins
oui,
on a de risques d'avoir des accidents.
Patrick le dira mieux que moi pour le coup, mais en effet, la conduite accompagnée est un vecteur qui permet d'avoir une conduite un peu plus sûre, et il y a en effet dans les chiffres moins d'accidents. Mais pour finir, sur le carrefour à 14 ans, moi, je suis pas d'accord. Finalement, 14 ans, si on dit que c'est un carrefour, nous on est plutôt pour renforcer une éducation routière sur les autres modes de déplacement. C'est-à-dire que si on dit que c'est un carrefour et qu'on est à l'aune d'une maturité, voilà, commençons avant de donner le volant, commençons par bien consolider la marche avec l'attention, le téléphone, enfin tout ce qui tourne autour, la prise en main des trottinettes électriques avec pourquoi pas un BSR pour les trottinettes électriques,
un brevet scolaire de routier.
Voilà, exactement. Et puis renforçons aussi tout ce qui est autour du vélo, enfin voilà. Commençons déjà par, prenons un an, entre 14 et 15 ans, pour bien renforcer cette éducation routière-là et avoir des déplacements sûrs et ceci sûrs avant de passer au volant.
Patrick Mérousse, vous allez répondre et puis après on va aller chercher un auditeur.
Allez,
au standard.
Ça marche très rapidement, mais finalement, je partage ce que dit Sophie.
Disiez, pourquoi pas la conduite accompagnée à 14 ans.
Merci Patrick, en peu de temps.
Mais vous dédite
maintenant. Je vous ai convaincu.
Non, je ne me dédie pas du tout, je vais vous expliquer Eric. En fait, les nouvelles mobilités, c'était les trottinettes électriques, il y a les vélos électriques, il y a les gyropodes aussi un peu moins, et puis il y a les quadricycles à moteur, les amis ou les duos, pour ne pas les citer. Je pense que ça doit faire partie du premier niveau d'apprentissage de la voiture, quoi, en fait. C'est pour ça qu'on parle de conduite accompagnée à 14 ans. Ça peut être un début, et il faut... Nous, on est en train de...
Mais ce n'est pas pour leur laisser le volant, forcément.
Mais non, pas forcément.
Ça va mieux en le disant.
Mais oui. Exactement. Ce que je veux dire sur cette partie-là, c'est que plus on apprend tôt, plus on aura des conducteurs sûrs. Ce qui fait la réussite de la conduite accompagnée, c'est qu'aujourd'hui, on est... c'est le dispositif le moins cher, quand même. Hein. C'est important de le dire aux auditeurs.
Ça coûte le permis de conduire.
Ça a un coût, le permis de conduire, et la conduite accompagnée, c'est le dispositif le moins cher.
On peut parler de chiffres, deux secondes.
Oui.
Un permis de conduire, ça coûte combien aujourd'hui?
On va dire aujourd'hui qu'on est entre 1600 et 1800 euros.
Quoi, et par la conduite accompagnée?
Et on va gagner entre à peu près 200 euros de moins, quoi, en fait. Donc, ce qui n'est pas rien, quoi, en fait. Parce que... Et puis, surtout, on gagne de la sécurité. Et puis, je le dis juste, je fais une parenthèse pour mes collègues école de conduite. En termes de résultats, si tout le monde faisait la conduite accompagnée aujourd'hui, vous savez, il n'y aurait plus de problème de place d'examen. Vous savez que là, ça va revenir.
Il n'y aurait plus de problème de
place d'examen. Aujourd'hui, il y a des délais pour passer le permis de conduire qui sont en train de se réallonger. Vous allez en entendre parler dans les mois qui arrivent, parce qu'on arrive dans un goulot d'étranglement. Si on faisait la conduite accompagnée, le taux de réussite, ça serait bien. Je termine juste en un mot. C'est vrai, quand on dit 14 ans, souvent on me dit « mais tu es fou ». Il y a 40 ans, quand mes ancêtres ont proposé la conduite accompagnée à 16 ans, on conduisait à 18 ans, on disait « mais ils sont fous ». Aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que la conduite accompagnée est la meilleure filière d'apprentissage.
Au standard 01 45 24 7000, Grégoire nous appelle de Marseille. Bonsoir Grégoire.
Bonsoir monsieur.
On attend votre commentaire ou votre question.
Effectivement, j'ai eu un problème de santé neurochirurgicale il y a 3 ans, l'été 2022. Et je me suis fait opérer, enfin ça a duré plusieurs mois, je me suis fait opérer et post-opération, le neurochirurgien m'a indiqué que je ne pouvais plus conduire, qu'il avait fait que je devais passer une visite médicale pour pouvoir conduire à nouveau.
Vous la passez tous les combien, cette visite médicale? Tous les 5 ans?
Et alors, exactement, j'ai passé une visite médicale et c'était mon témoignage qui a duré 3 minutes. J'habitais à Paris à l'époque, on m'a demandé lire quelques lettres de loin comme chez l'ophtalmo, lever le pied droit, lever le pied gauche, et après il m'a dit, le médecin réglé, super merci, c'est bon, vous pourrez conduire. Et donc, je suis dans un très bon état de santé malgré cet épisode que j'ai eu qui est clos, et je n'ai désormais des permis dont je dois passer une visite médicale tous les 5 ans pour pouvoir le conserver. Et c'est ça qui m'étonne sur le fait qu'on ne vérifie pas plus fréquemment pour les autres, et que les visites médicales qu'on doit passer sont en réalité un peu des farces, parce que ce n'est pas des vraies visites médicales.
Eh bien écoutez, c'est en tout cas votre réflexion et votre témoignage. Merci beaucoup Grégoire, vous appeliez de Marseille. Vous disiez tout à l'heure, Sophie Saintin, que les médecins agréés par la préfecture étaient formés pour bien localiser d'éventuels problèmes de réflexe, de vue. Notre auditeur semble dire le contraire, en tout cas que c'est un peu léger.
Bon, c'est un cas qui le relate. Non, il y a une vraie formation des médecins agréés sur la question de la compatibilité avec la conduite. C'est un examen qui est assez long. On regarde vraiment des points spécifiques liés à l'aptitude à la conduite.
Un mot sur la Suisse. On a des auditeurs qui disent qu'en Suisse, la Suisse a longtemps exigé un examen médical à 70 ans. Pourquoi a-t-elle repoussé cet examen à un âge encore plus avancé? Après 70 ans, je crois 80 ans, je crois.
Alors, deux fois, oui, en effet. Donc, ils ont mis un contrôle médical. Et puis, au bout d'un certain temps, ils ont évalué cette mesure. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ça n'avait pas d'efficacité. Et donc, ils sont remontés à 75. Ils sont en train de réévaluer en ce moment cette mesure, donc avec 75 ans. Hein, et ils envisagent de passer à 80. Parce que ça ne fait pas preuve d'efficacité.
Et il n'y a aucun constat qui montre qu'il y a moins d'accidents mortels depuis cette mesure. Un mot également, je vous pose la question, Patrick Mirouz. Vous êtes le directeur ou le président des auto-écoles ECF à propos de l'apprentissage de la route dès la petite école. Ça en est où ça? Moi j'ai connu ça il y a quelques décennies. Ça existe toujours?
Oui, il y a effectivement dans la petite école les... L'éducation, la sécurité routière, je crois que c'est une ordonnance du général de Gaulle de 1958, est dans les programmes de l'éducation nationale. Et l'éducation nationale, je pense, les programmes chargés, il y a un certain nombre d'associations, dont l'association de Sophie fait partie. Nous aussi, on a quelques agréments et on est en demande d'agrément parce qu'on a aussi légitimité pour intervenir sur ces sujets. Mais je crois que c'est un point de départ important. Je le redis, plus on est jeune, nous on est en train de travailler, là on a un projet qui s'appelle ECF Moto Kids, sur les jeunes avec les petites motos électriques sur la tranche 6-10 ans, et on parle même de Dresienne.
On remet au goût du jour la Dresienne.
Si vous laissez des enfants, je vais vous dire, il y a des exercices qui sont tout simples, vous les laissez faire comme ça, vous leur montrez... Ils vont se cogner, et après on est obligé de faire une petite règle pour laisser passer les uns les autres. Plus on apprend tôt, plus on a des conducteurs sûrs.
Alors, on est d'accord sur plus on apprend tôt, plus on a des conducteurs, en tout cas des usagers de la route sûre. Et nous, on se contente quand même d'être au moment de la mobilité de l'enfant. C'est-à-dire que s'il fait de la Dresienne et du vélo et qu'il marche, on va se concentrer sur cette éducation routière-là. Et donc, c'est très progressif. On commence par la Dresienne, le vélo, ensuite la marche, hein, bien sûr. Et puis après, on passe aux deux roues, quand c'est le moment, la trottinette également. Voilà, l'idée,
c'est par étapes.
Oui. Et à partir du lycée, la question de la conduite et du volant.
Avant, c'est prématuré, dites-vous. Isabelle nous appelle de Corse. Bonsoir Isabelle.
Oui, bonsoir France Inter, bonsoir à tout le monde.
Et merci de nous appeler. Quelle est votre question ou votre témoignage?
Alors, voyez, je suis enseignante de la conduite, j'enseigne en groupe lourd et j'enseigne en B, aussi en voiture. Donc, je suis aussi conductrice d'engin. Et je voulais apporter un témoignage. Et je pense que on incrimine beaucoup les personnes âgées parce que c'est vrai, il y a une perte de capacité à la conduite, ça c'est évident. Mais je pense que pendant la formation des jeunes conducteurs, vous voyez, elle se passe en quatre étapes. Et il y a un objectif qui dit connaître les caractéristiques des autres usagers et savoir se comporter à leur égard avec respect et courtoisie. Et ça, je pense que ça n'est pas assez dans la formation.
Alors, j'ai bien reçu le début de votre message, on va arrêter là parce que la liaison technique n'est pas très bonne. On va parler de ces jeunes conducteurs et de comment savoir se comporter. Un mot peut-être, qui veut commencer, sur la violence au volant. Est-ce qu'on l'enseigne à s'en prémunir? Comment est-ce qu'on, à des jeunes qui sont pleins de fougue, on peut aujourd'hui calmer les esprits?
Et puis en plus, il y a une question de genre.
C'est-à-dire?
Entre les garçons et les filles.
Mais oui, mais aller jusqu'au bout, c'est-à-dire les garçons sont plus violents au volant que les femmes.
Oui, les garçons sont plus violents, ils prennent plus de risques, c'est ce qu'on constate, et souvent on va constater que des garçons qui ont leur permis avec le maximum de points, le permis c'est sur 31 points, vont être beaucoup plus accidentogènes que des filles qui l'auront eu avec des points... Alors, vous avez raison de dire que, voilà, quand on met deux personnes, si je prends l'exemple, deux personnes qui sont dans une voiture et qui se coupent la priorité vont se traiter fréquemment de tous les noms d'oiseaux, assez souvent, les deux mêmes personnes, elles vont se bousculer dans la rue, elles vont se dire pardon. Donc ça veut dire que la voiture, cet engin de fer procure... Alors je crois que ça vient de... traditionnellement, on apprend à conduire de façon individuelle. Et c'est pour ça que de plus en plus, les écoles de conduite apprennent en collectif. Parce que conduire est un acte...
Ça veut dire quoi, apprendre en collectif?
Ça veut dire qu'il faut favoriser des cours théoriques ensemble. ne peut pas être rien que derrière. Il faut utiliser les nouvelles technologies, bien sûr. Et puis, même quand on est dans les véhicules, il faut apprendre en circulation ensemble avec d'autres élèves derrière, dans la voiture, qui regardent comment conduit l'apprenti, parce qu'ils font les mêmes erreurs. Et ils se, bon an, mal an, on arrive à avoir ce qu'on appelle de l'écoute pédagogique. Et puis aussi, être capable de partager, c'est-à-dire pour comprendre la règle, échanger sur la règle, et de ce fait, la respecter.
Sur la violence au volant, votre association y est confrontée, évidemment, quand il s'agit d'accidents, mais toutes ces incivilités aussi, vous en tenez compte? Vous avez des témoignages aussi là-dessus dans votre association?
Oui, on a des témoignages. Après, nous, on travaille vraiment en prévention, c'est-à-dire que ce que disait Patrick, le principe, c'est quand même d'être... La route, c'est le plus grand réseau social de France, en fait. On y est tous les jours. On est tour à tour piétons, parfois cyclistes, automobilistes. On prend la trottinette. Et donc, il faut vraiment avoir cette capacité à se mettre à la place de l'autre et avoir un comportement responsable individuellement, en fait, pour avoir un meilleur partage de la route. Et en fait, c'est vraiment vers ça qu'on veut aller.
Une question au 01 45 24 7000. Christian nous appelle de l'Aisne. Bonsoir, Christian.
Oui, bonsoir. J'écoute avec beaucoup d'intérêt votre émission. Bonsoir à tous. Bonsoir, et ce que je peux indiquer, c'est que étant pilote privé d'avion, on est déjà soumis à une visite médicale tous les ans à partir de 50 ans. Et cela nous permet de voler très tard. Il n'y a pas de limite d'âge, mais il y a une vérification qui est faite tous les ans de notre état de santé. Et je ne serais pas choqué que l'on fasse la même chose pour la voiture.
Eh bien, merci de ce témoignage. Je vous oppose peut-être que vous êtes combien de milliers de pilotes d'avion contre combien de millions de pilotes de voiture, sachant que, comme le précisait Patrick Mérouz à ECF, il n'y a pas assez de médecins pour contrôler régulièrement tous ces millions de conducteurs. Et j'imagine que pour l'aviation, les visites médicales sont moins nombreuses. Ça peut expliquer ceci et cela, non?
Oui, bien sûr, elles sont moins nombreuses. Elles ne durent pas très longtemps pour autant. Je dirais une demi-heure. Et je trouve que c'est très bien. Mais on peut s'en inspirer pour
absolument.
Voiture, peut-être, avec un échelonnement plus important.
Merci beaucoup de ce témoignage. Une dernière question, Patrick Mérouz, ça va concerner le permis à points. On parle du permis à vie. Or, la réforme de 90, elle a déjà mis un sacré bémol à ce permis à vie avec le permis à points. Ça existe depuis 30 ans. Quel bilan? On va essayer de faire vite parce qu'il nous reste 30 secondes. Quel bilan en fait?
Le permis, on a 12 points. Si vous perdez les 12 points, il faut repasser le permis. Donc le permis, il est plus à vie. Le bilan, c'est que les conducteurs fractionnistes perdent des points, et quand on a perdu des points, on fait un peu plus attention, donc je crois que c'est pédagogique, le fait d'avoir ce... Et puis on a la possibilité de faire des stages de sensibilisation à la sécurité routière qui permettent de récupérer des points, certes, mais qui permettent aussi de remettre, j'ai envie de dire, les idées en place. Les personnes qui arrivent ne sont pas d'accord, et quand elles partent le deuxième jour, elles disent « j'ai appris quelque chose ».
Les changements de comportement, c'est l'essentiel.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu aux auditeurs de France Inter. Le téléphone sonne, c'est terminé. À suivre le journal de 20h, et puis dans 10 minutes, ce sera Affaires Sensibles avec Fabrice Drouel.